Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, Michel Philippot, heureux de vous retrouver sur Bretagne 5, la plume est à vous. Pour cette dernière émission de la saison et avant les rediffusions de l'été, c'est un texte de Jean-Paul Delessart que j'ai choisi de partager avec vous ce soir. Un auteur dont j'ai déjà eu le plaisir d'accueillir plusieurs nouvelles dans cette émission. Pour mémoire, Jean-Paul Delessart est écrivain. On lui doit plusieurs romans, Mémoire d'oiseau, La vie d'Elsa en 2016, Myler Damon ou L'affaire de Valadouro Ravenel. Il est aussi l'auteur de trois recueils de nouvelles, La vie rêvée des anges, Le cœur averse et Orbe noir, sans compter une pièce de théâtre au titre fort coquin, Comment fais-tu l'amour Martine ? La nouvelle de ce soir s'intitule « Je m'appelle Valence Gousset ». Asseyons-nous un instant auprès d'elle, autour de l'âtre, et prêtons une oreille attentive à la voix émouvante de cette femme, au souvenir d'une existence de labeur, au contact de la terre, aux fortunes bonnes ou moins bonnes qu'elle égrène, au crépuscule de sa vie, comme un rosaire de confidences, sans pathos, mais avec lucidité. Je m'appelle Valence Gousset, et le Seigneur sait qu'il a plus compté pour moi que qui que ce soit sur cette terre de misère. J'ignore l'heure qu'il peut être. Je n'ai pas bougé depuis des heures et n'en ai plus nulle envie. Ce qui reste de boire dans la cheminée suffira bien jusqu'à la nuit. Je n'ai d'autre désir que celui de rester là, sur ma chaise, les yeux fixés sur les flammes qui sortent par les trous de cette vieille souche de chêne. J'ai toujours aimé le feu. « Maudit crassin !» râlait Victor, mon second mari. Maudit crassin qui fourgonne dans sa cheminée du soir au matin. Le feu m'a toujours fasciné. Il me semble que maintenant, sans lui, ma pauvre vieille carcasse ne tiendrait pas longtemps, que le froid l'envahirait toute et que ce corps que je ne sens déjà presque plus deviendrait raide comme cotterêt. Fait-il froid dehors? Je n'en sais rien et m'en moque. Ah, je me suis bien assez préoccupé du temps qu'il faisait ou qu'il allait faire tout au long de ma vie. J'ai assez enduré de soleil et de froidure, de pluie et de vent pour en être quitte aujourd'hui. À mon âge, on a bien le droit de prendre ses distances avec tout ça. Mon âge, mon âge. Je n'arrive plus à m'en souvenir. Dans les 80, ou un peu plus. Non, plutôt moins. Henriette, ma nièce, me l'a redit hier quand elle est passée. Non, c'est avant-hier qu'elle m'a rendu visite. Ah, je ne sais plus. Peut-être était-ce lundi? C'est quel jour aujourd'hui déjà? Vendredi? Samedi? Allons, tu n'en sais plus rien, vieille mule. Ah, quelle importance cela peut-il bien avoir? Tous les jours se ressemblent et se ressembleront jusqu'au dernier. Ta pauvre tête est pleine de courants d'air. Tu ne sais plus ni quand ni pourquoi tu vis.
Thank you.
c'est vrai. Je suis lasse de tout. De tout sauf de ces flammes qui sautillent là, sous mes yeux, et dont la bonne chaleur dégourdit mes pauvres membres sans force. En ai-je eu, et usé de la force pourtant, à l'étonnement de l'un comme de l'autre de mes deux maris. «
Taillée comme une chèvre, disait Théodore, le premier des deux, et forte comme un cheval. »
Avais-je le choix? Cette ferme que mon père m'avait laissée, il fallait bien la tenir, et même la grandir, tant que j'y étais. 16 hectares, c'était déjà beau. La deuxième du village, en surface, derrière celle de Jean Porcher, mais autrement tenue. En ai-je pris de la peine à gratter cette terre de Bretagne qui n'était pas de la meilleure qualité, mais qui finissait par nourrir son monde, pourvu qu'on ne soit pas manchot. Par l'user aussi son monde, comme mon pauvre Théodore, que Dieu l'ait en sa sainte garde, qui ne savait pas, Théodore, économiser ses forces. Était-il beau, cet homme-là, et fort? J'ai cette image de lui gravée dans la cervelle. Théodore, au feu de la Saint-Jean de Bourg-des-Comptes ça, je ne saurais plus le dire. Quelques années après la fin de la guerre. Après la fin de la guerre, forcément, puisque pendant, il était prisonnier en Allemagne. Le hasard m'avait placé près de lui, dans la grande couronne que nous formions autour du feu. Il était plus grand que la moyenne des hommes de par ici, plus noir de poils aussi. Porté un maillot sans manches de couleur bleue, et ses muscles saillaient comme ceux de Milord, le plus costaud des deux percherons de mon père. M'a-t-il seulement vu ce soir-là? Je crois, moi, n'avoir vu que lui. Par bonheur, nos routes se sont ensuite croisées, et plus d'une fois, ce gars-là m'attirait. Et puis, c'était l'homme qu'il me fallait, l'homme qui remplacerait les forces déclinantes de mon père, qui ne se remettait pas du mauvais coup de sabot qu'il avait reçu en pleine poitrine. Le malheureux souffrait le martyr, et il s'acharnait quand même à des besognes qui achevaient de le tuer. Mon père devait se douter qu'il ne tarderait pas à rejoindre sa défunte femme, ma mère, morte l'année de mes 10 ans d'un mal de poitrine. C'est lui, enfin, c'est ce que j'ai toujours cru, qui s'était arrangé pour attirer ce Théodore chez nous plus souvent que nécessaire. Ah, ces coups de main qu'il s'était mis à lui demander, c'était autant pour provoquer des occasions de rencontre que pour voir s'il était fait de ce bois dont sont faits les bons gendres. Ne lui déplaisait sans doute pas non plus de montrer à ce garçon issu d'une fratrie de 5 enfants qui n'avait pas 10 hectares de terre à eux tous, que nous avions, nous, les Bougeards, de beaux biens au soleil. Qu'as-tu, vieille machine, à remuer ces souvenirs d'un autre âge? Ah, remets donc plutôt un bio dans ton feu qui aura bientôt tout, comme on dit par ici, d'un feu de veuve. Mais puisque veuve je suis, justement, et depuis si longtemps. Je m'appelle Valence Gousset, et que Dieu me pardonne si j'ai péché. Le nombre de mes péchés, je ne peux le croire si élevé que ça. Quand, Mais quand aurais-je trouvé le temps de pêcher? Le labeur nous écrasait. L'entretien des terres, les labours, les moissons, les soins à donner aux bêtes, l'agrandissement des bâtiments, les réparations, les services rendus à nos voisins qui n'avaient pas de chevaux. Que nous restait-il de temps pour pêcher? Oh, je sais qu'on peut aussi pêcher par intention. Le père Ravenel nous mettait souvent en garde contre cette diablerie de l'esprit. Je pense sincèrement ne pas m'en être souvent rendu coupable. Ah, le péché de chair. Ah, je suis moins tranquille de ce côté. Non pas directement par ma faute. Je ne crois pas que ma nature m'y inclinait vraiment, mais Théodore, lui, n'en avait jamais assez avec cette affaire-là. Peut-être qu'une meilleure chrétienne que moi aurait su modérer les appétits de mon mari. Mais comment résister à un homme comme celui-là que des envies subites pouvaient prendre en plein jour, en plein champ? Dieu en jugera. Dieu jugera si toute cette fornication inutile, puisque mon ventre est resté vide, mérite son châtiment. Je ne crains pas Dieu. Il est la bonté. Et je ne pense pas avoir été mauvaise. Pour plus que la moyenne, en tout cas. Et même, je l'espère, plutôt moins. Que t'arrive-t-il aujourd'hui, vieille bête? Tes souvenirs dansent la gigue? Les bons comme les autres? Les bons comme les autres, oui, pour sûr. Parmi les bons, me reviennent ces moments que j'aimais plus que tout, ces dimanches après-midi, seuls moments vraiment chômés de la semaine. Et encore, quand la menace du temps ne nous obligeait pas à rentrer précipitamment du foin, ou à finir une pièce de labour. Avec Théodore, comme avec Victor plus tard, nous partions vers nos champs et nous en faisions à petits pas, le tour, lentement, comme des promeneurs. Attention, des promeneurs attentifs, auxquels pas un détail n'échappait. L'état des cultures, la croissance du froment, celle de la navette ou des lisettes, les dégâts causés par les animaux sauvages, tout était repéré, commenté et prises les décisions à prendre. Oh, étais-je fier de nos champs si bien tenus, des sillons parfaitement droits qui les striaient, de nos récoltes à venir. Cette inspection de nos terres chaque dimanche me donnait du courage pour toute la semaine suivante. Au retour, nous passions généralement par les basses-landes où nos 8 vaches paissaient depuis le matin. Sans plus forcer l'allure, disons en bilbaudant, nous les poussions devant nous jusqu'à la ferme. Restait la traite du soir, puis la soirée s'écoulait avec une lenteur comparable à celle de la vilaine, à laquelle il nous arrivait parfois de rendre visite. Pour la dernière fois, ai-je vu cette rivière qui coule au bas de notre village? Je m'appelle Valence Gousset. Ne suis plus qu'une vieille petite chose toute usée, mais qui compte encore, je veux le croire, aux yeux de notre Seigneur. Seigneur auquel je demande son pardon pour avoir douté de lui. J'ai douté de vous, Seigneur, quand vous avez laissé le malheur frapper à notre porte. C'était en 1958, une des rares dates dont je me souvienne. Mais j'ai une double raison d'avoir gardé la mémoire de celle-ci. C'est l'année de l'élection du général de Gaulle, événement qui me combla d'aise. et celle de la mort de Théodore. Mauvais tour du destin qui me fait souffrir plus que je ne croyais possible de souffrir. Il était rentré des clos mêles qu'il finissait de labourer. J'avais remarqué sa pâleur avant même qu'il ne m'en parle. Ça ne lui ressemblait pas. Dur au mal, dur avec lui-même, personne ne l'avait jamais entendu se plaindre. Il souffrait du ventre, se sentait fiévreux. Cela faisait plusieurs jours, m'avouait-il, que ce mal le tenait, mal qui passerait tout seul, pensait-il. Pas moyen, bien entendu, de le convaincre de rester au chaud. Il retournait finir son labour l'après-midi. On pourrait presque dire que le soir, ce sont les chevaux qui l'ont ramené. Il ne tenait plus debout. La fièvre a monté dans la nuit. Au matin, j'ai parlé d'aller quérir Aubry, le médecin du bourg, mais Théodore s'est emporté. Pourquoi pas un prêtre ? Tant que j'y étais. Pas besoin de cet âne-là pour guérir d'un simple refroidissement, gueulait mon Théodore. Pauvre imbécile que j'ai été de m'être laissé faire. Le lendemain, il délirait. Son corps était de braise. Quand Émile, notre facteur, est passé, je lui ai demandé de prévenir Aubry, le médecin du bourg. Il est arrivé sur sa moto à la toute fin de l'après-midi, n'a pas tergiversé plus d'une minute. Madame Gousset, c'est l'hôpital qu'il lui faut, et pas demain, dès ce soir. N'ai rien compris aux explications qu'il m'a données, ni retenu le nom de la maladie qu'il avait diagnostiquée. J'ai eu dès cet instant la certitude que le malheur venait d'entrer dans notre maison. Ce pressentiment, hélas, était fondé. Théodore est mort à l'hôpital de Rennes 9 jours après y avoir été admis. Je crois bien que c'est à mes bêtes, mes vaches, mes poules et mes cochons que j'ai dû de ne pas devenir bredine dans les jours qui ont suivi l'enterrement de Théodore. Ces animaux, c'est la vie même qui vous est rappelée. Ces exigences, ces nécessités, ça ne s'arrête pas, la vie. Celle de Théodore, pourtant, s'était bien arrêtée, elle. Et avec quelle brusquerie. On a dans son lit un homme qui est la force même, un homme qu'aucune fatigue ne paraît jamais atteindre, et puis en quelques jours, le voilà terrassé comme un arbre qu'on abat. Mais la vie autour continue. Vous êtes dans le courant de la rivière avec, croyez-vous, l'envie de vous laisser couler. Mais non, quelque chose en vous palpite qui vous force à rester en surface. Vous êtes jeune encore et vous tenez bon. Chaque jour qui passe vous éloigne de l'abîme où vous pensiez tomber, où vous vouliez tomber. Mais c'est la vie qui gagne, toujours. Alors vous reprenez votre place dans le grand branle du monde en pensant un peu moins chaque jour à cette pierre noire, plus dure qu'un diamant, qui s'est logée dans votre cœur. Je m'appelle Valence Gousset et je voudrais qu'il plaise à Dieu de me rappeler à ses côtés. À quoi sert de me laisser là, devant ma cheminée, à radoter, à remâchouiller mes vieux souvenirs? Une nouvelle fois, je me suis retrouvé seul, avec sur le dos cette ferme qu'aucune femme, eût-elle 4 bras, n'aurait pu tenir seule. Les voisins firent bien ce qu'ils pouvaient pour m'aider, parer au plus pressé,
mais eux-mêmes ne manquaient déjà pas d'ouvrage. Le monde ici n'est pas si mauvais. On oublie vite les éternelles fâcheries, ces haricoteries, comme on dit par ici, qui opposent les uns aux autres. Le malheur qui frappe pousse aussi à s'unir pour faire front. Et puis, puis la solution s'est imposée d'elle-même. On pourrait dire qu'elle n'a pas traîné en chemin. Quelques semaines, peut-être moins, je ne sais plus trop. Il est arrivé un soir, j'étais attablé devant mon bol de soupe, rompu par une journée à arracher des lisettes. Oh, je le connaissais, bien sûr, et aussi bien que tous ceux d'ici. Je connaissais Victor Gousset, dont je porte aujourd'hui le nom, pour l'avoir toujours connu. Mon aîné de 6 ans, il avait repris la ferme des Guitons, celle de ses parents décédés l'un et l'autre. Une partie de ses terres touchait aux miennes. N'avait jamais pris femme, n'en avait jamais trouvé ou jamais osé en approcher une. Victor était du genre taiseux. Au village, on le surnommait Grand Gousset. Oh, non pas à cause de sa taille qui n'avait rien d'exceptionnel, mais de ses économies qu'on supposait, sans bien sûr en rien savoir, qu'on supposait considérables. Ah, dame, c'est vrai qu'il était radin, le Victor. Ne dépensait pas un liard qu'il pût mettre de côté, ne s'octroyait jamais le moindre plaisir, pas même celui de boire. Et ne pas boire ici suffit à vous couper du monde. Tous les hommes ici boivent, bien avant d'avoir soif, et longtemps après. À tout bout de champ, dit-on. Et c'est vrai que pas un laboureur, pas un vacher ne quittait sa masure sans sa musette lestée de 3 ou 4 bouteilles de cidre ou de frénette. Ainsi allait le monde, et depuis aussi longtemps qu'on s'en souvenait. Si ne pas boire pouvait être reproché à Victor par certains, tous reconnaissaient son allant à la besogne et la parfaite tenue de sa ferme et de ses champs. On le moquait aussi parfois pour sa curiosité et son désir d'opter pour des méthodes nouvelles. On ne s'en moquait en général pas longtemps. Très vite, on comprenait les avantages de ce qu'il venait d'expérimenter, et on faisait de même. Je ne m'attendais pas, bien sûr, à sa visite ce soir-là, pas plus qu'à entendre ce qu'il était venu me dire. Ah, dame, cela prit du temps et ne vint pas tout de suite. Il y eut d'abord bien des considérations sur le temps qu'il faisait, sur celui qu'il allait faire, sur le mildiou qui cette année-là ravageait les patates, sur le cours du blé qui ne cessait de baisser. Il y eut bien des raclements de gorge avant qu'il n'accouche de la raison qu'il avait d'être là, assis à ma table, à la toute fin d'une journée de septembre. J'avais assez vite compris que sa visite n'était pas dénuée de motifs, mais je n'en discernais aucun. Je crois m'être un peu amusé à le laisser mijoter en observant le trouble qui l'agitait de plus en plus à mesure que passait le temps. Dans ses yeux, qu'il avait pleins d'un bleu délavé, je lisais cette gêne qu'éprouvent certains hommes inhabitués à l'autre sexe. Je cessais de rire à ce petit jeu quand je finis par comprendre, à force d'allusions maladroites, qu'il venait tout bonnement me demander de l'épouser. J'avais jusque-là eu l'ascendant sur lui qui s'empatouillait dans son histoire toute confuse, mais à partir du moment où je compris où il voulait en venir, c'est moi qui me suis effarouché comme une jeune dinde. Bêtasse que j'étais.
Après plus de 12 ans de mariage avec Théodore, je n'avais plus rien du Noiselle de l'année. J'en étais quand même sur mon cul. Ah, je le connaissais depuis toujours, nous avions fréquenté la même école. Pas en même temps, c'est vrai, mais nous ne nous étions jamais perdus de vue. Nos chemins se croisaient, pour ainsi dire, tous les jours, au coin des champs comme au moulin, au mariage comme aux enterrements. Il n'était pour moi qu'un voisin, qu'un paysan parmi les autres, plus discret que la moyenne. Ce qui n'empêchait d'ailleurs pas qu'on tienne compte de son avis, quand il décidait de le donner. Ah, il a su y faire, le Victor, pour me conduire là où il voulait. Ah, c'est que je ne m'y voyais pas, moi, dans les bras d'un autre. Veuve, j'étais, et veuve, je me voyais bien rester. On ne manquait pas de tâcherons par ici dont j'aurais pu louer les bras, et la besogne ne m'effrayait pas. Et puis, je me suis mis à douter. Avais-je la force et tout ce qu'il fallait pour tenir cette exploitation comme elle devait être tenue. J'en doutais parfois, certains aussi, qui n'étaient pas tous bien intentionnés, et m'en décourageaient. Et l'autre qui ne cessait de me tarabuster. Avec tact, je le reconnais. Jusqu'à notre curé, que j'ai vu un jour arriver dans la cour, qui se mit à me chanter le même air. J'ai toujours pensé qu'ils étaient de mèche tous les deux. Pour finir, j'ai laissé la chose se faire. Je n'ai pas eu à le regretter. Je m'appelle Valence Gousset. Ne suis plus qu'une vieille chose, lasse de tout. Il me semble aujourd'hui ressentir amassé dans mon corps ces dizaines d'années de labeur. Qu'il plaise à Dieu de me délivrer, enfin, de ce fardeau, dont j'ai pourtant chéri, jour après jour, le poids, et qui m'écrase aujourd'hui, alors que plus rien, ni personne, n'attend quoi que ce soit du maigre fantôme que je suis devenu. J'ai aimé la peine que nous nous sommes donnée, Victor et moi, pour faire de notre ferme l'une des plus belles du canton. J'ai aimé jusqu'à cette fatigue qui me brisait les membres au soir de nos interminables journées, jusqu'à cette poussière de foin qui m'étouffait à demi dans les greniers où nous entassions nos fourrages, jusqu'à la fange des chemins où nous pataugions l'hiver. Mais plus que tout, plus qu'aucun autre de tous les travaux que réclame la terre et dont le cycle est éternel, ce que j'ai aimé, c'est la moisson, la grande moisson. Quelle fatigue allait avec pourtant, quelle folle journée de chaleur et de poussière, mais que le spectacle était beau de ces hommes et de ces femmes, tous du village, tous réunis et attelés à la même tâche. Oubliez les querelles des uns et des autres, les petites haricoteries et les grandes mesquineries, l'effort nécessaire nous unissait. Je ne dis pas que cela durait plus que durait le passage de la machine dans chacune des cours des 23 fermes du village. Mais au moins, oubliait-on pendant aussi longtemps les chicaneries habituelles. J'aimerais tant revoir l'arrivée de la batteuse de grand travail devant chez nous, tirée par les deux énormes chevaux des frères Lhermitte, montée sur ses quatre roues de fer qui ripaient sur l'enrochement de la cour. Je reconnaîtrais, entre mille, les bruits qui allaient avec son entrée sur notre aire de battage. Aux hommes qui s'activaient au calage de la saprée mécanique et à l'installation de son moteur, nous servions, nous, les femmes, des bols de café s'il était tôt, du cidre si la journée était avancée. Le cidre coulait à flot tout au long du jour. Bien trop. La plupart des hommes finissaient salement éméchés, ivres de fatigue, ivres d'alcool. Ce bruit-là aussi, je l'ai dans la tête. Celui de la machine qui démarrait. Et cette espèce de halètement qui allait avec les premières gerbes que le dégo d'Yvelou enfourné dans les tambours. C'était parti pour une vingtaine d'heures, à cheval sur deux journées. Et ça me rendait fier, car c'était chez nous que la batteuse restait le plus longtemps, presque deux fois plus que chez les Lerets. Autre bruit que j'ai en mémoire comme une sorte de claquement, celui de l'immense courroie qui reliait le moteur à la machine. Il arrivait qu'elle échappe à ses volants, saute en l'air, retombe au sol en s'agitant comme un grand serpent. Au passage, il arrivait qu'elle fouette sévèrement celui qui avait le malheur d'être trop près. La machine s'arrêtait alors en soufflant, comme un gros animal terrassé. C'était quelques minutes de répit accordées aux femmes et aux hommes qui servait la machine. C'était un peu de temps donné au vent pour chasser de la place la poussière qui l'envahissait toute. Qui es-tu d'autre, Valence Gousset, qu'un de ces fantômes que tu vois danser dans les flammes de ta cheminée? Pourquoi t'obstines-tu à ressusciter le souvenir de ces hommes et de ces femmes qui s'activaient autour de ce grand monstre de bois et de fer qui dévorait nos moissons? Pourquoi ces images sont-elles restées si précises? Je ne me souviens plus de rien, ou presque, et pourtant, je me crois capable de retrouver le nom de chacun de ces moissonneurs qui trimaient dans notre cour sous le soleil de juillet. Allez comprendre. Henri Thésée, Noémie Berthelot, Clément Quérat, Marie et François Javel, Frédéric Loisel et tous les autres. Et mon Victor que je revois aussi, mon Victor qui ne laissait à personne le soin de monter les pochées de grains dans notre grenier. Au bas de l'échelle, on l'aidait à charger l'énorme sac sur son épaule et il gravissait les échelons comme il l'eût fait sans rien sur le dos. Ah, j'étais fier encore d'avoir, j'en étais sûr, l'homme le plus fort. Où es-tu, mon Victor ? Où es-tu ? Depuis combien d'années m'as-tu quitté, usé que tu étais, par cette terre jamais satisfaite ? Où êtes-vous, Armand, Janvier, Ptigus, Trichard, et Marcel, ton frère ? Paul et Marcel Leray, Gaëtan l'ermite, Berthe Boujard. Où êtes-vous tous ? Êtes-vous devenus poussière ? M'avez-vous tous abandonné ? Je n'entends plus vos voix, je ne distingue plus vos visages. Je m'appelle Valence Gousset. Je m'en remets à Dieu, à son immense bonté, qu'il veuille avoir pitié de moi. Elle a quitté sa chaise. Peinée à se redresser, son corps ne semblait plus lui obéir. Elle est sortie comme elle était, en chaussons, dans sa robe noire tout usée aux coudes et aux fesses. Elle est sortie sans savoir où ses pas la menaient, à peine étonnée d'être dehors. Un peu de brume en noyait le village qu'elle a traversé sans s'arrêter, sans un instant d'hésitation. Personne ne l'a vue. Elle a tourné au coin de la maison de la veuve Almi, filée à pas menus mais rapide vers le Bignon. En quelques minutes, elle était à la fontaine, près du lavoir. Elle a vu son reflet dans l'eau noire, son petit visage tout rond, ses cheveux en désordre. Elle a basculé. Personne n'a rien entendu. Le corps de Valence Gousset n'a été retrouvé que 2 jours plus tard.
Elle habite le musée de sa jeunesse évanouie. Elle propose un biscuit, on dit non, elle dit si. Elle a retiré tous les miroirs. Elle évite son reflet, ne veut plus se voir. Elle vit entourée de photos du passé. Son visage d'alors, son trésor, son trophée. Peau de pêche au tissu, tendu de satin. Mais le temps se dépêche et reprend son bien. Les plus jolies fleurs ternissent et se fanent. Les jeunes filles qu'ont de la chance deviennent de vieilles femmes. Sa peau froissée, c'est un drap qu'on agrippe, un mouchoir pour pleurer son mari qui nous quitte, un trait sur son front pour chacun de ses garçons, les paupières fripées, ses enfants qui s'en vont, ses mains qui se déplient, sont des araignées qui font peur aux petits, mais rassurent leurs aînés. Les traînées au coin des yeux sont le lit des fleuves, où s'écoulent peu à peu les larmes des veuves. Elle dit que les années écrivent sur les visages et que les ratures encombrent la page. Profitons du beau temps avant l'averse, elle tue le temps avant l'inverse. Elle refuse et regrette, elle est vieille maintenant. En excuse elle répète, elle était belle avant. Mais les plus jolies fleurs ternissent et se fanent. Les jeunes filles qu'ont de la chance deviennent de vieilles femmes. Qui ont la beauté des pyramides ou du Louvre. La beauté des montagnes, des glaciers qui les couvrent.
La Coquette par Benabar, La Coquette, véritable petite sœur de Valence Gousset, notre personnage de ce soir, proposé par Jean-Paul Delessart. Les outrages du temps, un thème bien ancré dans la littérature, et l'on ne peut évidemment s'empêcher de songer à Cassandre Salviati, l'égérie de Pierre de Ronsard, et à l'un des plus célèbres poèmes de notre patrimoine littéraire. Vous l'aurez bien sûr reconnu, Mignonne, allons voir si la rose qui ce soir avait des clauses, etc. Je vous laisse la retrouver. Je remercie Frédéric Guillon pour le montage et pour la réalisation de La Plume est à vous tout au long de l'année. Un véritable travail d'orfèvre qui confère aux mots des auteurs accueillis dans cette émission l'écrin qu'ils méritent. Passez une très agréable semaine sur les ondes de Bretagne 5. Je vous donne rendez-vous sur cette même antenne et avec de nouveaux textes dès la rentrée de septembre. La Plume est à vous, cependant, ne s'arrête pas pour autant et je vous y retrouve en rediffusion tout au long de la saison estivale. Passez un très bel été, prenez bien soin de vous et selon la formule désormais consacrée, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.